Sur les ondes de CKRL 89.1, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 aujourd'hui, et on parle évidemment bande dessinée, des nouveaux albums notamment qui viennent d'arriver, des nouvelles maisons d'édition également. On va parler avec Ariane Denommé qui nous présente l'album Du chez-soi à La mauvaise tête. On aura également en cours d'émission Jimmy Beaulieu qui vient de publier chez Alto Le temps des siestes, une suite de dessins légende plutôt libidineux. Alors il sera avec nous également un peu plus tard aujourd'hui. Côté commentaires bande dessinée, il y aura Stéphane Gravel dans quelques instants, Marco Duchesne également en fin d'émission. Alors ce genre d'émission bien chargée là, comme on les aime, et émission bien chargée également tout de suite après le festival de la bande dessinée de Québec qui a été bien animé également au fil de ces derniers jours, en fait la fin de semaine dernière. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont été faire un tour au festival, peut-être avez-vous croisé Jean-Sébastien Bérubé, peut-être avez-vous vu aussi sur les médias sociaux beaucoup son nom apparaître au fil de certains posts, si on me permet l'anglicisme, dans le milieu de la bande dessinée. Il y a eu beaucoup de discussions autour du quatrième tome, en fait, de la série Radisson, quatrième et dernier tome. En fait, il y a quelques jours seulement, l'éditeur Glénat Québec qui avait dit, regardez, nous, pour des raisons économiques, financières, on ne publiera pas le quatrième tome, donc on laisse tomber la série. Donc, ce qui fait qu'au Salon du Livre, la semaine dernière, ben Bérubé était en recherche d'éditeurs, en recherche de solutions. Finalement, il y a eu pression de la part de lecteurs, il y a eu une négociation entre l'auteur et la maison d'édition, et ce qui fait que cette saga a pris fin tout récemment, avec un comédien de Glénat Québec qui dit, ben voilà, finalement, on a réussi à en venir à une solution pour permettre à cette série de se clôturer, de connaître donc sa conclusion. Donc une belle nouvelle, mais une saga qui a dû être assez difficile pour l'auteur. Et d'ailleurs, Stéphane, en fait, il y a une pétition même qui circulait autour de Radisson 4, là.
Pourquoi tu me dis ça, là?
Ben, en fait, je te lance ça, parce que j'ai vu que tu me l'avais dirigé. Donc,
ouais, c'est moi qui ai fait ça. J'ai fait cette pétition-là parce que je trouvais que ça avait pas de bon sens. Il y avait une entente avec une maison d'édition de faire 4 albums sur une série. Tu sais, en plus, c'est pas une série où on pense en sortir 300, là. Il y en avait 4 de prévus. Il en était à son quatrième. C'était le dernier stretch pour lui pour finir son travail. Un travail qui, pour moi, a beaucoup de mérite parce que de raconter une histoire comme Radisson, je trouve que c'est pas facile. Bérubé a pris l'histoire en main, il a réussi à raconter une belle histoire avec ça. C'est quelqu'un qui a un bon talent, il a un beau talent au niveau du dessin, il y a un mouvement qui est très agréable dans les dessins de Bérubé. Puis que là, en bout de ligne, on lui dit non, tu vas en avoir 2/3 de fait, puis 2/3 de fait, et on arrête ça là. Mais je trouvais que ça avait pas de bon sens, puis je me suis dit, tiens, je vais essayer d'entreprendre une petite pétition pour qu'on démontre au moins à Glénat que les gens sont intéressés à lire à lire la suite.
Et ça a fonctionné, en fait, il y a eu des blogs qui ont réagi, il y a eu
ta pétition.
Je pense qu'il y a
des gens qui ont réagi. Je suis content oui, de ce qui s'est passé, parce qu'enfin, je suis juste content parce que les gens commencent à avoir un poids dans quelque chose, là. Je pense que les gens en ont fait part. Ça a sonné des cloches chez Glénat, puis ils se sont dit, ben, attends une minute, on peut pas laisser tomber quelqu'un comme ça que les autres appuient. J'ai vu des petits articles un petit peu partout. C'est un petit peu ceux qui s'intéressent à la bande dessinée puis qui ont des tags sur BD ou Glénat ont vu passer des trucs là-dessus. Donc, je trouve ça intéressant. Maintenant, J'espère qu'on va l'acheter, là, le tome 4, quand il va sortir aussi. Là.
Mais surtout que, de toute façon, la série, comme tu le disais, globalement, elle mérite d'être lue. Il y a eu des prix, des reconnaissances, des critiques extrêmement positives. C'est une bonne série, là.
C'est une bonne série. Puis c'est la fin aussi, là. Fait, faut pas avoir peur de se priver du prochain 13 en achetant le Radisson. Là, c'est fini avec le 4, c'est fini. Après, là, Jean-Sébastien va passer à d'autres choses. On aura l'opportunité de choisir ou non si on embarque avec lui dans sa prochaine série ou non. Mais là, je pense que les gens ont dit qu'ils voulaient avoir un tome 4. Maintenant, je pense que ça vaut la peine aussi d'embarquer dans l'aventure, puis d'embarquer avec lui, puis de démontrer à la maison d'édition que un album qui est fait ici par un auteur d'ici sur un sujet d'ici, ben au moins que les gens d'ici sont intéressés puis qui veulent l'avoir. C'est sûr que Glénat est une grosse maison d'édition. Je crois qu'on avait beaucoup de contrôle à Québec avant sur les éditions de Glénat Québec. J'ai l'impression que de plus en plus le groupe Glénat veulent prendre aussi le contrôle sur ce qui se passe ici et que ça devrait être des œuvres qui, entre guillemets, peuvent être vendues au catalogue général de Glénat, c'est-à-dire est-ce qu'on va les retrouver dans Drugstore, est-ce qu'on va les trouver dans 13 étranges ou dans autres trucs chez Glénat, mais j'ai comme l'impression que, et là je dis peut-être n'importe quoi, là, mais j'ai comme l'impression que il va falloir que Glénat Québec s'attache fort à son étiquette pour pouvoir conserver des choses qui peuvent être exclusives à ici. Mais c'est sûr, ça, des maisons d'édition de BD, il y en a de plus en plus. Tu vas en parler tantôt. Puis c'est un marché qui est féroce, là. C'est un marché d'édition. Là.
Alors en fait, on ferme cette parenthèse-là avec beaucoup de questions et une bonne satisfaction, évidemment, puisque le tome 4 va se faire. Et Stéphane Gravel, ben, je te dis bonjour officiellement.
Je l'aime, ton thème.
Merci.
pour revenir en arrière.
Et il y a un petit côté rétro qui sied bien aussi au sujet de ta chronique cette semaine.
J'ai comme le feeling qu'on pourrait avoir des petites cornes, puis j'ai un petit feeling de l'univers des Sentinelles de l'air là-dedans, tout ça. Il y a quelque chose de rétro et de chouette.
Avec du dessin à la Gilles Jourdain?
Ah, écoute, je suis tanné avec mes vieilles affaires, hein, mais j'ai décidé que j'en faisais un peu un mandat dans ton émission, pauvre toi. Je veux t'écœurer avec mes vieilles affaires et écœurer tout le monde. Je suis en train de terminer de lire l'intégrale de Gilles Jourdain, et puis c'est dessiné, scénarisé, partieux pour la majorité des albums. Pourquoi j'ai décidé d'aller là parce que on a parlé il y a quelques semaines de tout César, là.
Mm-hmm, effectivement,
et avec tout César, je me suis rendu compte que je connaissais peu César ou que j'avais oublié César. Puis que là, je me disais, ah, tiens, Gadon, c'est vraiment bien fait. Ça m'a amené ensuite dans Sibylline, parler des vieux Spirou et Fantasio de Fournier. Puis là, j'ai décidé de retourner dans l'intégrale de Gilles Jourdain. C'est une intégrale qui en est à sa version 2, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu, si je me souviens bien, dans les années, à la fin des années 80, début des années 90, une intégrale qui s'appelait Tout Gilles Jourdain, qui était un peu les premières intégrales que faisaient les éditions Dupuis. Et là, on a repris encore une fois l'intégrale, mais dans l'esprit, si on veut, Gilles Jourdain, c'est-à-dire que l'impression est superbe. Mmh. C'est niaiseux, là, de dire ça comme ça, mais l'autre était plutôt une intégrale standard où on remet les planches et les albums à la queue leu-leu dans les tomes. Là,
et Dieu sait que l'édition et la qualité de l'objet est importante en BD. Là.
On est fatigué avec ça. Hein?
Mais c'est important.
Mais c'est des bandes dessinées qui étaient faites dans un esprit. Et puis là, on essaie de ramener cet esprit-là. C'est-à-dire que le papier est poreux, la couleur est dense. On n'est pas sur un papier illustré avec une couleur luisante là, comme c'était à la mode. Comme c'était à la mode il y a quelques années. Il y a quelques années, on dirait qu'on aurait dit qu'il fallait que ça pète, là. Mmh. Tandis que là, on revient avec un papier un petit peu jaunâtre. Et c'est beau. Et c'est bon. C'est des scénarios où Gilles Jourdain est un enquêteur un peu à la James Bond, mais avec un petit peu moins de bebelle, là. Et c'est toujours des scénarios à rebondissement un petit peu farfelu, mais très bien construit, avec beaucoup d'humour dans le jeu de mots. En tout cas, c'est ça que c'est. Il faut aimer le jeu de mots pour aimer Thieu. Et ce que je trouve encore une fois intéressant dans ces intégrales-là, c'est c'est les documents qui viennent avec, c'est-à-dire qu'il y a des pages, il y a des dizaines de pages où on va raconter l'histoire, dans quel contexte ça a été fait, à quelle époque on était, qu'est-ce qui se passait dans le milieu de la bande dessinée. Et à un moment donné, on va se rendre compte que le dessinateur des Jules Jourdan va changer, c'est-à-dire que Dieu va abandonner le dessin de sa série. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est en pleine crise des scénarios dans la BD franco-belge et Thieu est un très grand scénariste. Fait qu'il va se mettre à donner un coup de main dans les Tifs tondus, il va se mettre à donner un coup de main dans d'autres séries, puis il va travailler comme ça avec plusieurs auteurs de BD pour travailler des scénarios, puis il décide de travailler un peu plus le scénario que le dessin. Mmh. Donc, il est un peu à la base de la nouvelle tendance de la bande dessinée à avoir de vrais scénaristes avec des dessinateurs. C'est-à-dire qu'avant, c'était quelque chose qui était plutôt rare. On avait souvent des dessinateurs scénaristes. Il fallait avoir, entre guillemets, le talent complet pour faire de la bande dessinée. On pense à Jigé, il faisait ses trucs tout seul. On pense à Franquin, il faisait ses trucs tout seul. On pense à Roba. C'est sûr qu'il y avait des ateliers alentour d'eux, mais c'est tous des gens qui travaillaient un peu tout seul. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que avec les dessinateurs qui sont issus des studios et qui étaient les ceux qui donnaient un coup de main et qui étaient soit l'assistant de Franquin ou l'assistant de Jacobs ou l'assistant d'un autre qui prenait de l'ampleur en dessin et qui voulait dessiner, on n'avait pas de scénariste. Et là, Thieu a commencé à travailler avec ces dessinateurs-là. Et il a amené un petit peu cette nouvelle tendance-là qui est celle de travailler en équipe scénariste et dessinateur. Donc, c'est très intéressant de voir ça et d'avancer dans des histoires comme ça et de relire, en fin de compte, des BD qui ont un certain âge, mais qui ont une valeur.
Et qui ont bien vieilli.
Ça vieillit. C'est sûr que là, Jules Jourdan, c'est un peu plus vieux. C'est plus vieux dans le genre. C'est comme réécouter James Bond contre Dr. No. Là, on a-tu le goût de l'écouter ou pas? Est-ce qu'on est dans l'état pour réécouter ça ou pas? C'est un film qui a son charme. C'est un film qui, si on met les lunettes de l'époque, je pense que c'est agréable parce que c'est pas le même rythme. C'est pas aussi dynamique que la BD d'aujourd'hui. Puis une des choses qui peut être la plus marquante, en tout cas dans les Jules Jourdan, c'est peut-être la notion du dialogue. Ce sont des dialogues de bande dessinée qu'on a dans Jules Jourdan, comme on pouvait avoir des dialogues de films dans le cinéma de Marcel Carné, exemple. Et c'est pas un dialogue transparent et aussi raffiné qu'on peut voir dans certaines bandes dessinées aujourd'hui, mais la bande dessinée, il y a 50 ans de BD entre Jules Jourdan et ce qu'on peut lire et les autres gens, par exemple.
Alors ben voilà, enfin on invite les gens peut-être à redécouvrir cette BD-là à la façon, comme tu dis, je pense, j'aime bien la comparaison, la façon à travers laquelle on redécouvre aussi les vieux James Bond. Stéphane Gravel, merci beaucoup.
T'es pas en train de me flusher?
Ben oui.
Charmant,
ça. À très bientôt.
Ça me fait plaisir. Bye.
Salut bien. Et nous, on s'en va en musique. Notre sélection musicale cette semaine, ce sera Fanny Bloom. On écoute Tes bijoux.
Les yeux fardés, les joues rosées, les cheveux qui volent au vent. Je t'attends comme on attend le soleil. Et quand il sera là, je t'offrirai la porte et chasserai les nuages que tu apportes.
Et voilà, on vient d'entendre Fanny Blum avec la pièce Tes bijoux ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Et on parlait en ouverture d'ailleurs du Festival de la bande dessinée francophone de Québec qui a été un véritable succès. Décidément, là, à peu près 66 000 visiteurs au Salon du Livre qui ont été évidemment voir les kiosques et les activités aussi du Festival de la BD. Mais surtout, les communications de l'événement soulignent le succès des activités au Musée de la civilisation de Québec, la soirée du 25e anniversaire et également le tournoi d'impro BD. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de voir et de collaborer à ce match et effectivement, ça a été une soirée extrêmement agréable et d'ailleurs, le festival nous dit, ben regardez, l'année prochaine, c'est certain que cette activité-là va revenir. Alors ben voilà, et d'ici là, ben évidemment, enfin, on a parlé d'ailleurs en long et en large la semaine dernière avec Thomas-Louis Côté de différentes activités, notamment des expositions. Eh ben, il y en a quand même plusieurs d'entre elles qui sont toujours actives, qu'on peut toujours voir. Alors, n'hésitez pas à aller farfouiller une nouvelle fois là, et une dernière fois peut-être pour cette année sur le site du festival à fbdfq.com. Et sur ces belles paroles, ben, on a le plaisir d'accueillir avec nous Marco Duchesne. Bonjour.
Salut.
Ça va bien?
Oui, toi?
Mais ça va très bien, ça va très bien. En fait, surtout, on est comme dans le sprint post-festival.
J'ai l'impression surfe.
On surfe, mais il y a beaucoup de livres qui arrivent aussi, beaucoup de nouveautés.
Ben écoute, pour le salon, en librairie, pour le salon, il rentre toujours pas de nouveautés européennes marquantes, mais on a eu le droit à quelques belles sorties québécoises pour ce festival, le Jimmy Beaulieu,
oui.
Deux titres chez Pow Pow qui commencent à s'implanter sérieusement avec vraiment de la qualité, entre autres Motel Galactique 2.
Qui est très agréable d'ailleurs, on va en reparler dans les prochaines semaines.
Ah oui, sûrement.
C'est incontournable.
Ah oui, et un autre titre fort prometteur de Sophie Bédard, je crois.
Oui, le nouveau printemps.
C'est ça.
Voilà.
J'aime beaucoup le dessin, j'ai pas encore lu, mais j'aime beaucoup le dessin.
Et c'est ça,
et là, on surfe sur ces nouveautés-là en librairie.
Et en plus, avec la mauvaise tête côté nouvelle édition. Donc,
ben
il y a quand même pas mal d'éléments québécois, mais parallèlement, il y a aussi des éléments hors Québec qui sont intéressants. Et en fait, les deux éléments de ta chronique nous ramènent vers l'Europe, là, je crois.
Ouais, ben, les sorties de titres qui sont peut-être moins connus, dont un pas du tout, mais ça c'est personnel et on va y revenir. Je vais commencer avec mon premier titre qui est Jason, un auteur scandinave, un coup de cœur depuis des années, qui comme ça, bon an mal an, sort un titre par année. Et souvent, on a le droit à la sortie française en même temps ou sinon avant la sortie anglaise au niveau des traductions. C'est quelqu'un que j'avais découvert, moi, avec un magnifique album qui s'appelait Hemingway, où Jason, le dessinateur et scénariste, l'auteur, nous racontait une histoire avec Hemingway, Fitzgerald à Paris, mais qui étaient des auteurs de BD plutôt que des auteurs romanciers et qui n'arrivaient pas à vivre de leur plume, de leur dessin. Alors, ils décident de faire un casse de banque, de faire un vol à... Et tout ça, et cet album-là était représentatif de l'univers de Jason. L'univers verbal, c'est-à-dire, il y a deux sortes de Jason. Il y a le Jason qui nous raconte des histoires, comme Hemingway, comme L'île aux 30 cercueils, ou 30, je me rappelle plus, l'année passée, il est sorti un titre chez...
Aux
30 000 morts, bref.
Ou aux 100 000 morts.
Aux 100 000 morts, voilà. Une île où il y avait une école de bourreaux. Alors, ces histoires, là, il y avait un scénariste, mais quand même, ces histoires très verbales, très racontées, Jason surfe sur la fantaisie un peu, sur le truc un peu absurde.
Donc, une espèce de métissage de genre, dans le fond, pour établir quelque chose qui peut sembler simple, mais après ça, il y a rajouté des éléments impromptus, improbables, etc.
Voilà. Et ça, c'est... Et il y a le Jason qui sort des recueils de nouvelles, de petites histoires, qui rend souvent hommage à un genre en particulier. Il nous avait fait un western, il nous avait fait des films d'horreur, les trucs de momies, de morts vivants, de zombies, des trucs de policiers, de films noirs. Alors, nous arrive chez Carabas tout récemment, cette semaine, sorti son dernier titre qui s'appelle Athos en Amérique.
Est-ce que ça fait référence au Athos de
Athos
Porthos?
Oui et non. Alors, c'est plusieurs petites nouvelles, encore une fois. mais cette fois-ci moins verbal, moins verbeux. Jason nous raconte tout en silence, parce que c'est un peu particulier. C'est souvent ces personnages sont animaliers, c'est des chats, des chiens, des oiseaux, un peu à la Trondheim. Mm-hmm. Mais ses yeux, les yeux des personnages sont souvent vides, sont blancs ou noirs. Et ses yeux sont inexpressifs. Les têtes des personnages sont souvent inexpressifs. Alors, il y a comme un malaise à lire Jason.
C'est une ambiance assez...
Et souvent, c'est silencieux. Les personnages se déplacent. Les personnages entre eux se disent presque rien. Et ça laisse une espèce de vide, de malaise qui continue. Et agréable à lire. Donc, c'est de courte histoire, une d'horreur, un homme a marié, un médecin a marié une femme sans tête et essaye de lui trouver un corps et elle lui reproche cette situation-là à cause d'un accident d'automobile. Lui essaye de lui trouver un corps, mais arrive pas à tuer une jeune fille pour lui donner le corps. Et l'histoire est toute déconstruite à la Frankenstein. Une autre histoire est un kidnapping qui vire mal. En fait, deux kidnappeurs discutent. Un va chercher de la bouffe et revient et son complice et la kidnappée est disparu. Et il vieillit. Et à un moment donné, quelqu'un vient se venger. Bref, tout le temps comme ça. Et le fameux Athos en Amérique, c'est tout simplement Athos qui est venu en Amérique tourner au cinéma. On l'a invité à venir tourner au cinéma. Il a fréquenté Louise Brooke, qui l'a laissé tomber. Il est en peine d'amour. Et il raconte tout ça à un barman. C'est Athos qui raconte à un barman. Bref.
C'est un petit côté surréaliste.
Surréaliste, mais aux gens qui veulent être... surpris, qui veulent être débalancé, qui ne veut pas être au lecteur qui ça lui dérange pas de perdre l'équilibre et de sombrer dans l'espèce d'univers un peu absurde de Jason, je vous le recommande. Et toujours, et comme je vous dis, c'est un de ses moins verbeux, donc tout est en silence avec ses personnages inexpressifs.
Si on connaît pas l'auteur, est-ce qu'on est mieux de se lancer avec Athos en Amérique ou de retourner avec celui dont tu nous parlais,
Si on veut des histoires complètes, même si l'univers est quand même vire sur un dixaine, là, se transforme en très peu de temps en quelque chose de fantaisé ou de surprenant, ben peut-être y aller avec L'île aux 30 000 morts, Hemingway. Mais si vous voulez un petit défi, je vous conseille les Jason, les recueils de nouvelles et surtout Athos en Amérique.
Alors, première proposition.
Chez Carabas, oui.
Chez Carabas, donc première proposition de Marco Duchesne cette semaine. Et deuxième, tu disais un texte qui n'est pas très connu, qui est chez Rackham,
Écoute, c'est une petite... C'est arrivé un peu par la bande chez Rackham, un distributeur qui... Rackham est toute une pléiade de petits éditeurs, ont changé de distributeur, sont un peu plus accessibles maintenant. Mm-hmm. Rackham, qui publie entre autres Frank Miller, publie quelques Américains.
Quand même.
Et quelques Français aussi intéressants. Mais là, il nous arrive avec un truc qui s'appelle « L'hiver du dessinateur ». Ça m'a beaucoup intrigué. La facture, le dessin, le style, l'auteur est un Espagnol, Paco Arroca. Et la facture du dessin, le style du dessin m'a beaucoup attiré. Ça fait très ligne claire, très post-Jacob, très Floch et Rivière. Je sais pas si tu te rappelles de Floch.
Oui.
Post-Chaland. Bref, une ligne claire que moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pris le volume. Et qu'est-ce que ça raconte tout de suite dans la préface? Oh, c'est historique. En 1957, en Espagne, Franco est installé, la guerre est passée, Franco est installé dans... Et, tranquillement, les Espagnols commencent à vivre une espèce ils commencent à avoir accès un peu à cette richesse-là de post-Deuxième Guerre mondiale. Et on nous raconte l'histoire de trois dessinateurs d'une revue. Et là, je m'excuse pour tous les Espagnols, les immigrants espagnols. Je vais massacrer quelque peu la langue. Alors, une maison d'édition, laisse-moi retrouver une maison d'édition qui s'appelait Bruguera. Une maison d'édition qui faisait de la BD, du magazine jeunesse en BD avec ses auteurs. Comme le Mickey.
Okay.
Comme Spirou. Comme en France faisaient ça les Américains avec Spirou, ben Bruguera faisait des magazines, des strips. Et en 1957, trois dessinateurs de cette maison d'édition-là ont décidé d'être indépendants parce que ces maisons d'édition-là, tout ce que faisait le dessinateur appartenait à la maison d'édition. Les personnages, les histoires, les planches.
Ce qui n'est pas nécessairement souhaitable. Voilà. C'est une appropriation
et
complète.
C'est toute cette histoire-là, c'est tout l'aspect historique de cette façon de travailler-là qui est racontée là-dedans. Ah. Comme les comic books, comme Spirou. Alors, on nous raconte trois dessinateurs qui partent et créent une revue qui s'appelle Tio Vio. Et pendant 2 ans, 1 an et demi, 1 an et quelques mois, ils vont essayer de vivre de ça. Ils vont pas réussir. Ils vont retourner à la maison d'édition Bruguera. Et c'est ce que ça raconte. C'est l'envers du décor. C'est la même chose que Will Eisner nous avait raconté avec Le Rêveur, où il nous raconte comment, jeune homme, il est rentré dans une maison là-bas, les studios américains, les syndicates, mm-hmm. vendaient des strips, comment il rentrait, comment il était payé à la case, comment il était payé à page, comment il travaillait, comment, tout en équipe, chacun, comment ils étaient corrigés. Là-dedans, on voit dans Bruguera, la maison d'édition, à un correcteur, c'est-à-dire qu'on remet les planches, et là, avec un crayon rouge, le correcteur, ceci ne doit pas être dit, ceci est un gag que vous avez fait il y a 3 semaines. Bref, c'est un aspect historique, peut-être moins intéressant pour certains, mais...
Mais si on aime la BD,
oui, si on aime la BD,
si on est curieux de voir comment ça fonctionne, les rouages, ça.
C'est pas un aspect historique de l'Espagne sous Franco. Mm-hmm. C'est un aspect historique de comment fonctionnait, comment on travaillait à une certaine époque dans le milieu de la BD, dans les années 50. Et je recommande aussi ce qu'avait fait Will Eisner, le truc s'appelle Le Rêveur, ça a été traduit il y a pas tellement longtemps chez Delcourt, ça s'appelle Le Rêveur, où Will Eisner en biographie, et là il raconte comment il rentre dans les studios, comment il rencontre Jack de King Kirby, qui va créer les Fantastic Four plus tard, comment il a rencontré et comment il procédait, comment ces studios, un peu comme a fait l'association à un moment mm-hmm. donné, des dessinateurs qui se regroupent et qui décident de créer un studio et tout. Ben à l'époque, ça se faisait. Bon, c'était parrainé par les maisons d'édition, mais comme Spirou, comme les comics américains, comme DC, Marvel, et dans ce cas-ci, comme Bruguera.
Oui. Alors, j'ai l'impression, Marco, que c'est quelque chose qui peut intéresser justement une section de lecteurs, une portion de lecteurs, ceux qui ont envie de voir derrière la magie de la bande dessinée. Il y en a qui aiment bien voir les histoires, mais pas lire sur le dessin. Et oui. En même temps, parallèlement, ça distingue, parce que ces temps-ci, j'ai l'impression qu'on réfléchit beaucoup sur le dessinateur dans l'autobiographique, le dessinateur qui se met en scène, etc. Ouais. Mais là, on est dans un autre contexte, dans un autre type de BD. Là.
En fait, c'est on sent beaucoup l'hommage de Paco Roca, l'auteur de L'hiver du dessinateur. On sent beaucoup l'hommage à un Espagnol, rend hommage à sa propre culture BD, à sa BD nationale. Et on voit des petits exemples de ce que se faisaient ces dessinateurs-là à l'intérieur. Et pour les curieux, moi-même, j'ai commencé à chercher des trucs qui se faisaient. Et c'était de qualité de ce que faisaient les Américains ou les Français hein, dans le comic strip. Vraiment, une petite découverte. Alors, c'était ma chronique un peu aventurier.
Oui, en fait, pour ceux qui ont envie de sortir un peu de certains sentiers battus, eh bien donc, Atos en Amérique de Jason et L'hiver du dessinateur de Paco Roca. Marco Duchesne, merci beaucoup.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Et on se dit à bientôt.
Ciao.
Et ben nous, on va prendre une courte pause encore à venir, ben, notamment Ariane Denomé qui va nous parler de Du chez soi qui vient d'être publié à La Mauvaise Tête.
Vous désirez devenir membre du 89.1? C'est simple. Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement $25, impliquez-vous dans un média urbain. Votre carte est valide 1 an, peu importe la date d'achat.
La Barberie. Parce que nous sommes la Barberie.
Pale Ale, lime et framboise. Blanche ou mûre.
Parce que nous sommes la Barberie.
India Pale Ale, Stout Imperial, cuivré ou thé, brasse camarade.
La Barberie, parce que nous sommes différents.
Funk, soul, groove, afrobeat,
Le vendredi 18h30, les rythmes de Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi font exploser CKRL. C'est 100% dynamite.
Oui, je prendrai une émission de jazz avec du blues et du folk accompagné de chansons francophones.
Alors, ce sera une émission de jazz avec du blues et du folk accompagné de chansons francophones.
Oui, merci.
Merci d'avoir choisi CKRL. Avancez sur ckrl.qc.ca.
Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble. CKRL est maintenant en balado-diffusion. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section « Programmation ». La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près de vous.
Québec. CKRL. Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e Avenue Limoilou. Lebaldulézard.com.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Raymond Poirier, j'ai avec vous jusqu'à 18h30. Et on vous rappelle d'ailleurs également que vous pouvez suivre La Vie en BD via Facebook, La Vie en BD-CKRL, et également notre blog, lavieenbd.wordpress.com. On le mentionnait en première demi-heure, nouvelle maison d'édition qui a fait son apparition, lancement double vendredi dernier lors du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Cette maison d'édition, c'est La Mauvaise Tête. Et on va s'intéresser cette semaine et la semaine prochaine aux deux premières publications de cette nouvelle boîte. Alors, cette semaine, on va parler du livre « Du chez soi » d'Ariane Denommé. Elle est avec nous au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avec du chez soi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux axes qu'on peut explorer, qu'on se doit d'explorer. En fait, il y a la réflexion et que propose le livre, et il y a également la mécanique du dessin, la mise en scène de ce livre-là. Peut-être pour se mettre en contexte, d'abord, on parle d'un ouvrage qui a été développé là, sur 3 années.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un ouvrage qui est né il y a à peu près 3-4 ans autour de la crise des subprimes. C'est un peu ce qui a été l'élément déclencheur du travail autour du récit. Puis, je travaille lentement, donc le livre vient de sortir ce printemps.
Et en fait, même si la crise est un peu plus loin derrière, est-ce que les propos sont toujours aussi actuels, je trouve, en fait, une réflexion sur la quête de l'idéal par le matériel, au bout du compte?
Oui, en fait, le livre est axé autour de l'acquisition de maisons. Je pense que cette quête de l'idéal-là aurait pu se faire aussi par le biais, je sais pas moi, du voyage, de la vie amoureuse, il y a plein d'éléments de notre vie qui sont axés, en fait, qui sont divisés entre comme l'espèce d'aspiration à quelque chose d'idéal et le réel. Mais la maison, je trouvais, venait concrétiser. En fait, elle venait plutôt mettre en relation bien l'aspect très conflictuel de tout ça, donc l'idéal, mais en même temps l'extrême banalité du quotidien. Donc, il y a comme cette maison fantasmée à l'épreuve de la vie, jour après jour, avec toutes ses déceptions.
Oui, une espèce de rêve, mais un rêve qui, au bout du compte, est un peu faussé quand on le vit dans la réalité.
Ben, je veux dire, c'est certain que comme notre vie quotidienne ne pourra jamais correspondre en tout point avec cette espèce de rêve qu'on se construit à la fois et qu'en même temps on cherche à nous vendre, parce que dans quelle mesure ce rêve-là nous appartient. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de, je pense que le marketing et les promoteurs immobiliers sont quand même en partie responsables de cette construction-là. Quand on regarde, je veux dire, l'imaginaire qu'ils construisent autour de la maison, c'est clair qu'on veut nous faire aspirer à une espèce de vie idéale là, qui, en fait,
oui, puis
c'est impossible à atteindre, là.
Puis en même temps, ça me donne l'impression, et c'est des éléments que je trouve qui ressortent de votre livre, c'est notamment l'idée du foyer là-dedans qui est un peu exclu. On va pas s'acheter un foyer, un chez-soi, on s'achète une maison, ça devient un outil de consommation, alors que c'est un lieu avec lequel on va avoir une relation extrêmement intime qui devrait pas être considérée, à mon sens, dans nos réflexions sur la même lignée que certains achats autres qu'on peut faire, là.
Et c'est vrai qu'idéalement, ça devrait pas l'être, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui, oui, est extrêmement intime, mais en même temps, qui vient nous définir. Il peut y avoir une tension entre comme ce qui serait notre chez-soi idéal, là, du fin fond de notre cœur, mais en même temps, notre désir de représentation peut aspirer à autre chose. Faut pas oublier que même si c'est une chose infiniment intime, ça s'achète avec de l'argent, c'est quelque chose qui est considéré comme un investissement qu'on peut revendre, capitaliser. C'est pas innocent là, quand même, puis c'est souvent présenté comme ça aussi là, comme c'est plus qu'un chez-soi qu'on s'achète, c'est quelque chose qui va nous permettre ensuite de faire plus d'emprunts et c'est un outil de capital.
C'est un investissement, c'est ça. L'idée d'investissement, des choses comme ça. Et quand on parle d'un sujet comme ça, rien de nommé, j'imagine que le défi aussi, c'est justement de présenter, parce que le parti pris que vous semblez avoir pris dans le livre, c'est de présenter un portrait, mais pas de le teinter trop d'opinions, en fait, de porter un regard, mais de laisser la réflexion au lecteur aussi, au bout du compte. L'exercice qu'on fait là, ben c'est à partir de ce que vous dites, mais c'est pas dit clairement dans le livre non plus, là.
Ben idéalement, effectivement, ça devrait pas. Je voulais pas faire un livre à thèse. Je voulais raconter plutôt pas tant le récit de personnage qu'une espèce de portrait impressionniste social. Donc, je voulais pas surligner à grands traits comme voici mes idées concernant la crise immobilière, mais plutôt, en fait, j'avais été vraiment touchée par tous les récits que j'avais lus autour de ça, puis cette espèce de course, puis je voulais en rendre compte, mais idéalement d'une façon empathique, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle et me touche, et c'est pas juste non plus, sur lequel je pose un regard distant et avec et critique, là. T'sais, oui, il peut y avoir probablement un aspect critique, mais je pense que c'est surtout un regard empathique sur cette situation-là qui m'est pas totalement étrangère, là.
Et à l'intérieur de ça, d'ailleurs, vous avez dit c'est des récits liés aux subprimes qui vous ont inspiré, et c'est plusieurs récits aussi qu'on retrouve qui s'entrecroisent à l'intérieur de Duchessois.
Oui, donc il y a disons peut-être une famille qui constitue le noyau et auquel se raccrochent deux autres groupes de personnages. Puis je dirais que tu sais, mettons, si la famille principale est dans la mesure où comme on est un peu plus présente, mais je dirais que les personnages secondaires contribuent autant à l'élaboration de l'atmosphère, parce que en fait pour moi chacun des personnages représente un peu un miroir pour les autres. Donc c'est la situation que vit le personnage principal, en fait, est peut-être celle sa sœur, tu sais, la situation que vit la sœur du personnage principal, c'était peut-être celle que lui va vivre dans 6 mois, 7 mois, 1 an et demi, c'est-à-dire se retrouver à avoir de la difficulté à payer cette maison-là. Et d'un autre côté, l'autre personnage qui a le chalet idéal, qui perd son emploi, là aussi, ça pourrait être, je voulais qu'on sente que chacun des personnages pourrait vivre ce que les autres vivent, qu'il y a quelque chose d'interchangeable. C'est dans ce sens-là aussi que je dirais que c'est empathique, parce que c'est ce que vivent ces personnages-là, j'ai l'impression que c'est tous pourraient le vivre, m'incluant là-dedans. D'où l'idée de traiter plusieurs personnages et non pas un sur lequel on pourrait faire comme « Ah, c'est parce qu'il est ainsi, c'est parce que c'est sa psychologie qui agit comme ça ». Non, je pense que c'est on est un peu tous comme ça.
Et en même temps, j'ai l'impression que ces récits-là, ces familles-là qui où tout ne va pas bien justement pour différentes raisons, versus la famille qui est dans le processus d'achat et le père de cette famille-là qui le vit très naïvement, sans avoir conscience de tout ça, mais ça rend sa naïveté peut-être un peu plus touchante et un peu plus alarmante aussi à certains degrés.
Ben, en même temps, on pourrait dire, comment je fais ça, alarmant, oui, mais en même temps, on pourrait dire, peut-être que ça va aller très bien pour ce personnage-là aussi. Je pense que son sort est suspendu, parce que peut-être que dans son cas, tu sais, tout va se dérouler bien, mais c'est vrai que, tu sais, il sait pas ce que pensent les autres personnages ou ce qu'ils vivent réellement, mais c'est un peu aussi notre cas, tu sais, je veux dire. Lorsque des proches, lorsque des amis nous dépeignent, tu sais, une situation, généralement, c'est sous un jour le plus avantageux possible. Puis, tu sais, ce qui nous amène à convoiter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils possèdent. Puis, dans une certaine manière, il y a comme une forme de naïveté. Mais je pense que ce personnage-là est peut-être plus que la moyenne comme ça, mais...
C'est pas nécessairement une mauvaise naïveté.
Ben, je le vois... Je le percevais pas comme ça. Je le voyais juste comme, je sais pas, un bon gars, un petit peu doux et simple, qui, tu sais, qui veut rendre sa femme et ses enfants heureux, mais qui choisit peut-être pas le meilleur chemin.
Et dans ce récit-là, Ariane de Nommé, on retrouve beaucoup la maison qui est très présente. On sent que vous avez pris le temps justement de dessiner, de la placer, de placer le décor, placer les lieux, les bâtiments, etc. Donc pour qu'on sente leur présence. Là.
Oui, en fait, j'ai surtout travaillé à partir de soit de documents qui viennent de publicités promotionnelles pour des développements domiciliaires ou encore des photographies sur Flickr de gens qui mettent en scène leur propre maison parce que je voulais présenter des chez-soi idéales, idéalisés. Donc, c'est pas des vraies maisons, c'est des représentations de maisons, disons, où elles sont travaillées, tu sais, le pot de fleurs est placé au bon endroit, il n'y a pas de désordre par opposition, tu sais, à la maison des personnages principaux qui est un peu plus chaotique. C'est lorsqu'on visite justement le chalet de l'ami ou la maison de la sœur. Tout est placé, puis c'est justement en travaillant juste à partir de photos vraiment d'environnement très léché, puis c'est venu guider un peu le dessin parce que il fallait que ce soit des environnements enviables, attrayants et non puis et d'une certaine manière aussi figés. Parce que c'est les environnements de ces documents promotionnels là, ils sont pas habités, ils sont pas vivants là, ils sont faits pour vendre.
Et ça renforce ce qu'on disait un peu au départ, l'idée de dépersonnalisation du chez-soi pour une raison pour une autre, donc qui fait qu'on n'a pas l'impression quand on voit les personnages. Enfin, on sait qu'ils sont chez eux, mais en même temps, on sait pas à quel point ils sont liés émotivement avec cet endroit là.
Oui, on pourrait peut-être dans une certaine mesure avoir l'impression qu'ils sont étrangers à leur propre maison. Ils sont plantés là, mais c'est un décor qui est plus ou moins... qui correspond plus ou moins à peut-être à leur identité, leur personnalité.
Et est-ce que c'est pas mal? Parce que dans le fond, c'est première publication, évidemment, La mauvaise thèse. Vous avez offert plusieurs publications autopubliées à feu La maison Rex. Est-ce que c'est... on pourrait dire que c'est vraiment en continuité avec le reste de votre travail?
Peut-être avec le dernier livre à feu La maison Rex. Sinon, avant, non, j'avais fait une variété d'essais dans différentes directions, mais je pense que depuis 4 ou 5 ans, je m'intéresse peut-être à un dessin un peu plus réaliste avec des thématiques sociales davantage. Mais puis le prochain sur lequel je travaille aussi s'en va un peu dans cette direction-là. Je pense pas faire ça toujours, mais il y a comme une question qui m'habite et j'ai pas fini de la travailler.
Et donc on suivra évidemment ces explorations-là. On invite les gens à découvrir justement et La mauvaise tête et Du chez soi avec donc ce volume. Ariane de Nommé, merci beaucoup.
Bien, merci de m'avoir reçu par les ondes.
Mais ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, Du chez soi, donc je le rappelle, à La mauvaise tête. Et nous, on repart en musique. On écoute Fanny Bloom avec Respirer la fumée.
Déjà 4 saisons, le bon bleu paraît. Un chemin de
Et voilà, respirer la fumée. Fanny Bloom, ici sur les ondes de CKRL. Et maintenant, au bout du fil, on est en compagnie de Jimmy Beaulieu. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Jimmy, qui est doublement présent à Québec, en fait, dans les librairies avec le volume Le Temps des siestes, avec également une exposition à la galerie Morgan Bridge qui est là jusqu'au 29 avril. Et ce livre, en fait, Jimmy, c'est un peu dans la lignée d'À la faveur de la nuit, de comédie sentimentale pornographique en termes de vocabulaire dessiné, mais on parle d'un livre de croquis, d'un livre de dessin essentiellement.
Oui, ça reste un livre qui a un début, un milieu puis une fin, mais c'est pas de la bande dessinée au sens strict du terme. Là. C'est beaucoup plus une espèce d'évocation poétique du désir, si on veut. Là. Donc ça le rattache aux deux autres, mais c'est quand même une expérience de lecture un peu plus abstraite.
Et j'avais bien rigolé enfin, en lisant la préface où vous dites, en fait, c'est un recueil de dessins cochons que vous avez affaire de faire, Antoine Tanguay, l'éditeur de chez Alto. Et évidemment, en fait, dans la mesure où, à mon sens, les dessins dans Le Temps des siestes sont tout sauf cochons, d'une certaine manière.
Oui, ben, en effet, ben, c'est pas tout ce qu'il y a sur mon site, mais c'est le mettons, le thème de la sélection. Puis, mais tu sais, bon, il y en a quand même que c'est des portraits de face. C'est pas toujours très libidineux ce qu'il y a dans le livre. Donc c'est peut-être un désir qui se situe peut-être plus au niveau de la personne entière et non juste de son physique. Là. Donc fallait pas négliger ça. Mais effectivement, on a choisi selon ce thème-là dans la banque de mes dessins. Là.
Oui, en fait, j'ai bien aimé. D'ailleurs, je suis tombé sur une critique qui disait qui parlait d'un érotisme subtil.
Oui.
Et j'avais bien aimé.
Bon. En tout cas, mais... J'espère que si l'inverse, c'est d'être des recettes grossières, je préfère subtil.
Effectivement. Et qu'est-ce qui vous amène, justement, en fait, parce que de ce que j'en ai compris, c'est un sujet qui vous inspire beaucoup, donc la femme, la féminité, à travers le dessin, là.
Oui. Ben, je sais pas, je pense que le il y a en masse de monde qui couvre le terrain du Thanatos dans la culture populaire. Moi, je sais pas, je préfère me concentrer sur la pulsion de vie, l'éros, puis le désir, en tout cas. Des choses un peu plus positives, peut-être. Je sais pas, ça vient, c'est agréable à dessiner aussi, tout simplement, tout bêtement. Puis, je sais pas, un peu toutes nos meilleurs souvenirs d'envie, puis nos pires souvenirs sont pas mal reliés à notre relation avec, pas nécessairement l'autre sexe, mais le sexe convoité. Donc, je pense qu'il y a, je travaille pas mal de choses abstraitement en dessinant ces images-là.
Donc une sorte d'exutoire, à la limite, on pourrait dire.
Oui, un côté catharsis, mais en même temps, c'est pas juste pour de la souffrance, il y a aussi c'est aussi assez célébrant, là, si on veut.
Mais surtout, en fait, quand on regarde les femmes dans le temps des siestes, elles sont enjouées, espiègles, légères, vivantes. C'est un regard très globalement, en fait, sauf exception, très assez positif, assez. Je veux dire, on sort pas de là triste, au contraire. Là, tout le monde a l'air de vivre des situations réflexives et quand même assez coquines et positives.
Ouais, ben je suis content de vous l'entendre dire. Moi, je sais que je lis quand même là-dedans. J'ai investi quand même une mélancolie sous-jacente. Mais qui est quand même orienté vers quelque chose un peu plus positif, puis qui donne un peu envie d'avancer. Là, j'ai fait assez de livres déprimants dans le passé. Je voulais que celui-là soit peut-être une alternative. Mais en même temps, on peut très bien, je pense, le lire comme assez déprimant, surtout au niveau du texte.
Là. Oui, effectivement.
Il y a une mélancolie assez lourde, mais les dessins en général, au contraire, mais tiens. Je dis dans préface que je fais ces dessins-là surtout quand je travaille sur des choses administratives à l'ordinateur, par exemple. Puis plus le travail que je fais est chiant, plus les dessins sont cochons. C'est un peu ça, c'est un peu le d'essayer de renouer avec une sorte de délice puis de désir de pas trop fondre dans le monde des chiffres puis dans le monde de la cervelle, là.
Et en même temps, vous mentionniez les commentaires. Justement, parfois, on a l'impression, en fait, le commentaire qui apporte vraiment un autre angle, aussi une autre perspective au dessin, un autre contexte peut-être aussi que celui qu'on a quand on observe simplement le dessin sans nécessairement lire la notule en bas.
Oui, ben c'est ça. En fait, j'aime bien que la notice fasse un contre-pied un peu curieux, même que des fois, l'agencement des notices et de l'image a été presque... presque aléatoire. Bon, après ça, si ça fonctionnait pas, je le changeais, là. Mais tu sais, des fois, c'est, j'essaye un truc qui se lie d'une manière assez incongrue avec l'image, puis ah, ben, il sort de là, une perche tendue vers le lecteur qui, lui, va peut-être la ramasser ou pas. En tout cas, faut idéalement que l'imagination du lecteur prenne le relais un peu là-dessus, puis qu'il s'invente une histoire par page. Puis, donc, c'est ça. C'est vraiment si le lecteur essaie de réconcilier l'image avec le texte en dessous, ben, il va déjà passer un bon 5 minutes.
Oui. Ben, en fait, puis ce qui rend le livre d'autant plus stimulant, à mon sens, c'est ça bonifie un peu. C'est pas seulement des dessins. C'est la narration apporte un peu et force une certaine, renforce peut-être l'intimité entre le lecteur puis le livre, justement, en devant créer cette histoire-là ou ce rapport-là.
Ben, encore là, je suis content de vous l'entendre dire. C'est un peu le but recherché d'essayer d'y donner, un dialogue un petit peu plus complexe que juste un livre de contemplation d'images ou un livre de tout petit texte comme ça. En tout cas, je dis que la vraie matière en bande dessinée, c'est un peu justement entre le texte et l'image, donc c'est un peu toujours ce qu'on vise, mais là, dans le cas du temps des siestes, c'est plus complexe de la manière qu'on évoque cette espèce de matière-là. Le blanc entre les cases devient un petit peu plus dur à aller chercher, mais je pense que ça récompense un peu plus quand on fait l'effort d'aller le chercher.
Et Jimmy Beaulieu, en terminant, si on parle un peu du dessin, en fait, il y a vraiment une variété de médiums aussi, encre de chine, aquarelle, crayon de bois, crayon de couleur, le reste aussi est là. Est-ce que ça dépend de ce que vous avez sous la main ou c'est vraiment, en fait, puisqu'on parle quand même de croquis qui sont presque quotidiens, donc c'est vraiment l'idée d'expérimenter, d'explorer qui a dominé un peu la création de tout ça?
Oui, ben je suis quelqu'un qui aime bien en fait le côté aventureux du changement de médium, donc je suis un peu un touche-à-tout, puis je garde un peu le plaisir de dessiner intact en changeant toujours d'approche, d'outils et de manière d'échafauder le dessin aussi, là. Des fois j'y vais direct, des fois je fais beaucoup plus de travail préparatoire, en tout cas. Donc, je réinvente à peu près à chaque fois mes méthodes de travail. Puis bon, en bande dessinée, ça peut être un peu dur à suivre parce que je change de style assez régulièrement au sein d'une même histoire. Mais là, par exemple, dans le cas du temps des siestes, ben, ça fait un peu partie de la proposition, là. C'est une bonne variété. Puis ça, je pense que ça empêche le livre d'être routinier puis emmerdant autant que moi, ça m'empêche de voir mon travail comme routinier.
Alors ben voilà, on invite les gens à découvrir donc cet ouvrage, Le temps des siestes de Jimmy Beaulieu, c'est chez Alto. Merci beaucoup.
Ben merci à vous.
Et bonne fin de journée.
Vous aussi, au revoir.
Alors ben voilà, c'est sur cette rencontre qu'on termine l'édition d'aujourd'hui de La Vie en BD. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Il y aura notamment Jacques Lamontagne qui sera avec nous, aussi David Turgeon qui sera de passage. Alors ben voilà, c'était Raymond Poirier au micro. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir et on vous souhaite une excellente fin de semaine. Dans quelques instants, c'est 100% Dynamite qui prend le relais.